À la question que faire de l'Union européenne, je serais assez tenté de répondre synthétiquement, la laisser aller à son dernier fracas, comme elle s'y prépare, et voir ce qui en sort. Parce que lorsqu'on parle de l'Union européenne ces temps-ci, c'est plus une chronique de crise qu'il s'agit de tenir, mais un précis décomposition. Le plus caractéristique et sans doute le plus impressionnant tient au fait que les institutions de l'eurozone sont littéralement à feu et à sang. Les conflits internes y ont atteint une intensité telle qu'ils ne prennent même plus la peine de se dissimuler. Et on en est arrivé au point où la Banque Centrale Européenne s'est engagée dans un chantage absolument inouï, en menaçant de ne plus accepter les titres grecs en collatéral et d'interrompre les supports de liquidité au secteur privé bancaire grec. Ce qui est une déclaration de guerre ouverte, proprement invraisemblable, et qui tient par son irrationalité les extrémités qui ont été atteintes, puisque la Banque Centrale Européenne avertit que si elle n'obtient pas satisfaction, elle accomplira elle-même et délibérément la chose même qu'elle essaye d'éviter dans son rapport de force avec les gouvernements, à savoir effondrer le système bancaire grec et plus largement le système bancaire européen. Donc on est là à un niveau d'aberration qui signale le dernier degré de la décomposition institutionnelle. Pour tout arranger, le FMI lui aussi a décidé d'apporter sa petite contribution au foutoir général et menace de ne pas débloquer sa tranche de crédit au plan Grèce 1.0 si l'Union européenne n'a pas préalablement arrangé un plan de sauvetage 2.0. Du côté des États membres également, c'est la plus grande confusion. Et spécialement en Allemagne, la chose est à remarquer, qui s'est fracturée entre une Allemagne tendance banque centrale qui ne veut entendre parler de restructuration des dettes sous aucun prétexte et une Allemagne contribuable qui l'exige absolument. Au milieu de cet imbroglio, on peut avoir confiance que l'urgence immédiate d'un deuxième plan d'aide à la Grèce sera surmontée fin juin. Gagner du temps, c'est encore l'une des dernières choses que les institutions de l'eurozone sachent faire. Restent cependant les questions liées à une possible restructuration de la dette grecque et de ses effets. Alors le fait est que s'il y a défaut sur la dette grecque, le choc direct sur le système bancaire privé du pays va être rude. Fin 2010, les banques grecques détenaient à peu près 56 milliards d'euros des titres souverains de leur propre pays, et sur les autres systèmes bancaires également, ça se courra un petit peu. Mais surtout, à ce moment-là, il faudrait entrer dans une topologie fine du risque systémique, c'est-à-dire dans une espèce de cartographie du treillis des relations bancaires croisées et de ses nœuds, pour voir si parmi les banques écroulables, il ne s'en trouverait pas une par hasard dont les connexions pourraient conduire à l'écroulement d'autres, et par suite initier la dynamique de l'effondrement bancaire cumulatif. L'appréciation de ce risque est des plus incertaines, mais au moins on peut en dire qualitativement qu'il croîtrait dangereusement si, comme c'est en fait probable, s'ajoutait au défaut grec une dynamique de contagion qui conduirait à terme bref à des défauts irlandais, puis portugais, etc. etc. Alors à la vérité, il ne serait même pas nécessaire d'aller jusqu'aux défauts techniques de ces pays pour que la situation devienne inextricable. À l'image de ce qui s'est passé pour le système bancaire américain à l'automne 2008, la configuration présente de multiples crises souveraines locales et donc sur le point de bifurquer en crise souveraine globale. Et le rapprochement avec l'automne 2008 n'est pas controuvé. Nous nous retrouverions à nouveau dans une situation identique de matérialisation d'un risque systémique géant. Vous avez d'ailleurs observé peut-être que les États-Unis, qui observaient jusqu'ici d'un œil un peu distrait l'agitation européenne, commencent à prendre un peu peur. Et effectivement, ils n'ont pas tort. Alors, situation identique à celle de 2008, mais à trois différents stades. Premièrement, en lieu et place des dérivés de crédit hypothécaire privé, nous avons affaire à des titres souverains. Deuxièmement, selon l'extension de la contagion, les encours exposés à des dévalorisations massives pourraient être très supérieurs, et par conséquent, les pertes bancaires potentielles. Troisièmement, enfin, en 2008, les banques avaient été sauvées par les pouvoirs publics. Mais cette fois-ci, les États sont aux abonnés absents, et pour cause. Ce qui n'épuise pas pour autant le champ des pouvoirs publics. En effet, reste la Banque centrale. De ce point de vue, Trichet n'a pas complètement tort. Enfin, on peut au moins comprendre sa logique. Car à partir d'une restructuration grecque, naît la possibilité d'une divergence bancaire géante qui réécroulerait tout le système. Et en effet, la BCE se retrouverait absolument seule en première ligne pour ramasser le tout à l'appel et au petit balai. Là où Trichet a tort, cependant, c'est en imaginant qu'il existe une solution alternative qui lui permettra de couper. Car la seule alternative actuellement présente, en tout cas dans le débat européen officiel, c'est la reconduction du même, en pire. Et selon une séquence tout à fait baroque, qui enchaîne sous nos yeux un premier plan de sauvetage, adjoint d'un premier plan de rigueur, qui est en train d'échouer, c'est ce dont nous faisons le constat à l'heure actuelle, échec qui appelle un deuxième plan de sauvetage, qui va s'accompagner d'un deuxième plan de rigueur, approfondissant la logique du premier, tout ça est une impeccable logique, etc., etc. Donc ça peut durer longtemps comme ça. Alors en fait, non, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Et c'est pourquoi, à supposer qu'un deuxième paquet grec soit finalisé d'ici la fin du mois de juin, le problème se reposera immanquablement et à l'identique à échéance de 18 mois maximum, et en fait pas seulement pour les Grecs. Que se passera-t-il lorsque nous serons parvenus au bout de cette route? Eh bien, dans une situation d'exception radicale, rendant absolument impérieuse une action décisive. La question stratégique sera de savoir qui est capable de faire quoi. Au moment où le système bancaire s'écroule, alors que les États sont financièrement incapables, il n'appartient plus qu'à la Banque centrale, non seulement d'assurer des soutiens vitaux de liquidité, comme elle l'a fait en 2008, mais également de se substituer aux États défaillants pour conduire la restructuration des bilans bancaires, à savoir la humanitaire et recapitaliste. Au bout du chemin, il n'y a donc plus qu'une seule solution disponible, et c'est celle de la création monétaire massive. La BCE sous influence allemande y est-elle prête? Il semble assez évident que poser la question, c'est y répondre. Et cette réponse se matérialisera sous la forme d'une fracture de la zone euro. Fracture entre d'une part un premier bloc sous influence allemande qui voudra se désolidariser des surendettés, affirmer sa capacité à servir régulièrement sa propre dette, c'est-à-dire reconduire la pleine et entière acceptation du jeu du financement des déficits par les marchés, donc de la normalisation des politiques économiques par les marchés. En d'autres termes, redire sa convergence de vue fondamentale avec le capital financier international en matière de politique économique. Et d'autre part, un second bloc qui pourra se découvrir un intérêt commun à entrer dans une logique radicalement opposée, à savoir, premièrement, répudiation intégrale de la dette publique. Deuxièmement, nationalisation flash du secteur bancaire ruiné, et ceci par saisie. Troisièmement, création monétaire massive pour d'une part recapitaliser les banques et d'autre part garantir les dépôts à vue et les épargnes, évidemment à hauteur d'un certain plafond. Quatrièmement, démantèlement des activités d'investment banking et neutralisation réglementaire brutale des marchés de capitaux. Enfin, et provisoirement, cinquièmement, réorganisation du financement des déficits sur une base mixte combinant concours monétaire de la Banque centrale et mobilisation des épargnes résidentes. Alors c'est là un programme suffisamment tranché pour qu'il soit assez clair que tout le monde n'est pas prêt à y entrer. Qui y adhérera? C'est une question tout empirique, qui recevra sa réponse en situation. Rien ne permet d'exclure a priori qu'une pluralité d'ex-États membres se reconnaissent dans ce programme, car de puissants intérêts communs à la rupture sont déjà constitués. Contre la position nationale rigoriste, je dirais même intransigeante, voire étriquée, il faut redire la viabilité possible et surtout l'intérêt intrinsèque d'une union plurinationale, économique, monétaire, mais surtout politique. C'est-à-dire d'une union qui se construirait cette fois sur une convergence réelle et profonde en matière d'organisation économique lato sensu, c'est-à-dire incluant le modèle de politique économique, les formes de la finance et le régime de concurrence. Or, en cette matière, l'union qui naîtrait dans les circonstances aussi violentes que celles que j'ai dites, et par là aussi discriminante, serait d'emblée assurée de cette convergence dont la profondeur et la robustesse seraient attestées à l'épreuve originelle d'une crise maximale. Mais surtout une union politique, c'est-à-dire une union garantissant la plénitude du principe de souveraineté, par l'organisation adéquate des rapports économiques internationaux, neutralisant les entêtements extérieurs, et par la construction des institutions politiques adéquates garantissant l'exercice intérieur. Mais symétriquement, contre la position internationaliste qui veut intransitivement l'union, c'est-à-dire l'union pour l'union, et sans le moindre égard pour les conditions concrètes de l'union, il faut redire également la viabilité d'une solution simplement nationale, et n'avoir aucune hésitation à y recourir si les autres solutions s'avèrent impraticables. Je conclue en récapitulant. Premièrement, l'euro est probablement mort, et dans tous les cas, il est odieux. Deuxièmement, recréer une monnaie commune dans le cadre d'une union politique réelle, mais sur des bases radicalement transformées et progressistes, est une solution très possible en principe. La conjoncture proche pourrait même lui donner un fameux coup de main. Non seulement cette solution est envisageable, mais j'ajoute qu'à mes yeux, elle est préférable. Pour autant, troisièmement, possible en principe, cette issue pourrait être avérée impossible en pratique. Et ça ne serait pas infâme. La solution unilatérale nationale est là. Et elle, elle est toujours praticable. Si les circonstances l'imposent, il n'y aura donc pas à hésiter. Je vous remercie.